Coucou, vous êtes bien sûr votre émission préférée, c'est bon, 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers. Gérard au téléphone, enfin au micro. J'espère que vous allez bien, nous voudrions à titre radio de l'Entre-deux-Mers, eh bien, vous présenter nos voeux. L'émission ne sera pas réenregistrée, donc vous souhaitez un joyeux Noël, joyeuse fête de fin d'année en famille, de pouvoir partager, d'échanger et d'être bien éloigné de ce que nous vivons depuis maintenant 24 mois. Donc une pensée très forte à tous ceux qui sont dans le malheur, qui sont dans la peine, qui sont dans la demande. Il y a des gens qui souffrent, eh bien nous partageons leur souffrance et nous partageons leur douleur en espérant qu'elle s'atténuera avec cette année 2022. Émission un peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai quatre invités particuliers que j'aime beaucoup. Et je voudrais présenter Corinne Vieillefond qui s'occupe de l'ADMR de la Réole. Vous allez comprendre. Et j'ai Maude et Sandra qui travaillent donc à l'EHPAD. C'est comme ça que ça s'appelle.
Oui, tout à fait.
À l'EHPAD Médicis à Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux. Nous allons commencer avec Corinne de l'ADMR de la Réole. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Allez-vous bien ?
Très bien.
Nous aimerions savoir un petit peu tout d'abord ce que veut dire ADMR.
Alors c'est une association d'aide à domicile en milieu rural.
D'accord. Quelles sont vos fonctions à l'ADMR ?
Alors je suis auxiliaire de vie, c'est-à-dire que je suis en fait aide à domicile avec une petite particularité du diplôme d'auxiliaire de vie qui me permet de donner des médicaments, d'aider à des soins corporaux comme l'aide à la douche, faire des changes, voilà.
D'accord. Donc vous allez directement chez les personnes concernées.
C'est ça, tout
comment
à fait.
Comment ça se passe ? Expliquez-nous comment. Je suis personnellement dans la capacité de pouvoir subvenir à mes travaux quotidiens, mes besoins quotidiens.
C'est
comment
ça.
Comment ça se passe-t-il ?
Alors, la première démarche, c'est effectivement prendre contact avec l'association pour expliquer les besoins au quotidien. Alors, c'est souvent les enfants qui viennent nous rencontrer. Pour
D'accord.
nous dire que leurs parents ont effectivement des besoins. Et donc, la responsable de secteur, puisque c'est par secteur, donc moi, je vous parle de la Réole, mais il y a 10 associations ADMR en Gironde. Donc, les responsables de secteur vont se présenter au domicile, évaluer les besoins de la personne, et en fonction, enverront une auxiliaire de vie, une aide à domicile, en fonction de la prise en charge aussi qu'ils auront, puisque ça dépend de ça aussi. Souvent, les caisses de retraite prennent en charge une partie des frais.
Vous voulez parler des frais de l'engagement financier.
Tout à fait. Donc, et de là, eh bien, nous intervenons. Alors, on peut intervenir trois fois par jour.
À des
heures bien précises, oui, tout à fait. Souvent pour les repas, donc matin, midi, soir, pour l'aide au repas. Pour l'aide au coucher, pour l'aide au lever, et également pour le ménage, pour toutes les tâches ménagères.
D'accord, donc tout ce que la personne, femme ou homme, ne peut plus faire ou ne peut pas faire, pour des raisons bien entendu évidentes, vous l'avez compris, d'incapacité motrice, morale ou physique.
C'est ça.
D'accord, vous intervenez. Une aide à domicile peut gérer combien de patients ? Parce qu'on peut, on peut appeler ça des patients, c'est une
Alors,
patientèle.
Alors nous on dit bénéficiaires.
Des bénéficiaires, très bien. Donc respectons la règle. Vos bénéficiaires, vous pouvez vous en occuper de combien une personne ?
Alors par jour, en moyenne, 5-6 domiciles, 5-6 familles. Et dans la semaine, ça peut aller à 20 personnes différentes, hein, parce que nous intervenons quelquefois que pour une heure.
D'accord.
Ou on peut intervenir pendant 3 heures, 4 heures.
Chez la même personne.
Chez la même personne, tout à fait.
Comment se passe alors ? Je vais être trivialement, basiquement, argent. Vous êtes rémunéré comment, vous ?
Alors, nous, on a un salaire fixe. On a un salaire fixe en tant qu'auxiliaire de vie. Nous avons des contrats de temps d'heure. Et donc, l'association respecte effectivement un planning où nous avons... alors, je vous dis par hasard, une fille qui a 130 heures par mois, c'est en général ce qui se passe, et c'est réparti dans le mois. Alors, ça peut être très différent d'une journée à une autre.
Donc, vous êtes salarié, en fait.
On est salarié, tout à fait.
C'est-à-dire, vous êtes déclaré, vous avez une feuille de paye.
Exactement.
Et vous vous déplacez avec votre propre véhicule.
Oui.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Et qui paye les charges de ce véhicule ?
L'association. L'association prend en charge les déplacements. Alors, nous avons deux tarifs, des déplacements aller-retour, le matin et le soir, et des déplacements durant la journée entre deux interventions.
D'accord. Il y a combien d'années que vous faites ce métier ? Parce que c'est un métier de passion et...
Oui.
Et je voulais, et nous voulions à la radio, vous rendre hommage, madame, à travers ce
c'est
travail.
C'est très gentil.
Et rendre hommage aux EHPAD de France. C'est pour ça que j'ai fait venir deux personnes d'un EHPAD de Mérignac pour vous rendre hommage à vous, mesdames. Alors, il y a quelques hommes qui travaillent dans ce métier, mais c'est surtout un métier professionnel de femme, féminin. Et vraiment, très sincèrement, je voulais vous dire merci. Et dire merci à toutes ces personnes qui, comme vous, travaillez. Et faites un travail absolument extraordinaire, exceptionnel envers nos anciens, nos aînés, comme nous les appelons. Mmh. Et je sais, j'en parlerai tout à l'heure encore. Alors, je vous écoute. Depuis combien de temps faites-vous ce métier-là, madame ?
Alors, ça fait 18 ans.
18 ans.
Ça fait 18 ans et j'espère encore.
Donc, vous avez commencé à 15 ans, parce que madame a 33
C'est gentil.
ans.
C'est gentil. Non, non, c'est un métier effectivement de passion. Je pense qu'il faut aimer. Les gens, il faut aimer...
Est-ce qu'il faut un agrément pour faire ce métier ?
Alors, non. Non, non. Lorsque j'ai débuté, j'étais sans diplôme. J'ai passé mon diplôme au bout de 3 ans dans l'entreprise. Et donc, toute personne, effectivement, peut travailler dans l'aide à domicile sans diplôme.
D'accord, mais il est préférable d'en avoir un quand même.
C'est mieux. C'est mieux.
Quelle est la moyenne d'âge des personnes concernées par cette aide à domicile ?
Ah. Ça, c'est très variable. C'est très variable parce que la maladie...
Parce que touché très jeune aussi.
Ah ben oui.
Un accident.
Ah mais on est bien d'accord. Donc le plus jeune...
Votre plus jeune...
Il a 20 ans.
Oh putain, pardon.
Il a 20 ans parce que ce sont... On aide aussi les personnes avec des handicaps mentaux.
De naissance donc.
De naissance.
Génétique.
Tout à fait, tout à fait.
Donc ça, c'est important de le savoir, ça ne touche pas que les personnes âgées, ça touche les personnes handicapées. En fait.
Général, tout à fait, tout à fait.
Et comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une différence d'approche par rapport à un jeune de 20 ans,
oui,
à une personne âgée de 90 ans ?
Bien sûr. Après, c'est passionnant parce que ce sont des enfants dans un corps d'adulte. Donc on a une attitude complètement différente.
Un enfant dans un corps d'adulte. Est-ce que les adultes ne sont pas dans un corps d'enfant quand ils sont malades ?
Eh, on est bien d'accord. Il y a des ressemblances. Hein.
Parce que cette maladie terrible qui fait fureur, c'est la maladie d'Alzheimer.
C'est
Et
ça.
Encore 30 ans, 40 ans, on appelait ça revenir en enfance.
Ben, c'est tout à fait ça, en fait. Hein.
Donc vous avez des adultes qui sont dans un corps d'enfant et des enfants dans un corps d'adulte.
C'est bien résumé.
Et vous devez travailler et vous devez vous adapter par rapport... À ce grand écart, parce que vous pouvez passer de l'un à l'autre en quelques minutes, en quelques kilomètres.
C'est ça.
On reprend la voiture, on a laissé un enfant et on va retrouver un autre enfant, mais qui est... Je ne sais pas comment vous faites vraiment, je suis bouleversé par ces témoignages qui me touchent au cœur personnellement et qui me touchent, et qui touchent tous les Français, parce que j'aimerais dire une chose, je ne fais pas de politique et je ne parle pas de politique, mais quand les gens rouspètent, les Français sont des rouspetteurs quand même. Il ferait bien d'aller voir ce qu'il se passe dans d'autres pays. Parce que nous avons quand même une richesse exceptionnelle. Nous avons des sécurités de l'emploi, nous avons des sécurités de maladies. J'ai vécu 18 ans outre-mer. Je n'ai jamais eu autant de sécurité que dans mon propre pays. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous trouvez face à une situation, je dirais, quasi inédite pour vous?
Ah.
Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver dans des situations inédites?
Bien sûr.
Un exemple sans citer personne.
Ah oui, tout à fait. Ben, on parlait jusqu'à présent des jeunes atteints d'handicaps mentaux. Nous sommes amenés maintenant à avoir aussi des pathologies qu'on n'avait pas à domicile.
Quel type de pathologie?
La psychiatrie. La psychiatrie, entre autres.
Schizophrénie.
Voilà. Oui, voilà. Et là, nous ne sommes pas forcément formés pour...
Et vous êtes même quelquefois en danger.
Et alors, s'ils sont à domicile, c'est qu'il y a quand même un suivi, un traitement.
Attention, j'entends bien.
On est bien d'accord.
Nous ne sommes pas médecins, nous ne parlons pas de médicaments,
voilà.
Nous ne sommes pas dans la médecine, nous sommes dans le vécu d'une pathologie dont ce n'est pas vous qui apportez les médicaments.
On est bien d'accord.
On est d'accord là-dessus.
Là, on parle d'humain. On parle de personnes.
On parle d'être humain.
Voilà, c'est ça. Et donc, on s'adapte. On fait comme on le sent, au mieux. Et c'est souvent la communication qui permet de comprendre les besoins de la personne et comment...
L'attente.
Et voilà, et comment s'adapter. Oui, oui, tout à fait.
Oui, parce que quelquefois, il n'y a pas de moyen de communication autre que les gestes.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a pas la parole.
On est bien d'accord. On est bien
Ou
d'accord.
Alors, elle peut être d'une violence inouïe.
Voilà.
D'accord. Et je vais toucher un point très sensible. Lorsque vous perdez, malheureusement,
alors,
une personne,
oui.
Ça doit être dramatique.
Alors, c'est très, très difficile. Alors, après 18 ans, je dirais que je suis arrivée à avoir un recul là-dessus. Mais les premières années... Ça a été très, très difficile. On s'attache très rapidement, puisqu'on les côtoie eh bien, au quotidien. Hein. On est là souvent, plus souvent même que la famille.
Bien sûr, la famille vous fait pleinement confiance, mais également... Alors, là encore, je vais y aller avec des pincettes. Il y a des familles qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, pas la liberté du choix. Il y en a qui bottent en touche parce qu'ils ont les moyens de le faire. Et on se dit, on se débarrasse des vieux, quelque part. Ça aussi, c'est important.
Ça peut arriver.
Mais il faut savoir aussi que je suis dans ce cas-là. C'est-à-dire que ma maman a la maladie d'Alzheimer, elle a 94 ans, elle est dans un EHPAD, mais je ne suis totalement incapable de subvenir à ses besoins. Je ne sais pas, je ne sais pas faire. Changer une couche, je peux le faire. Ma mère m'a changé mes couches à moi. Donc ça ne me dérange pas de changer une couche d'une maman qui est redevenue, je dirais... un peu une enfant, ça ne me dérange pas. Mais tout le reste, je ne sais pas anticiper. Il y a de l'anticipation. Il y a des dangers dans une pièce, dans une maison, dans une cuisine. On avait tout fait, on avait coupé le gaz, on avait coupé l'électricité, parce que c'est tout et n'importe quoi, donc, avant qu'elle rentre à l'EHPAD. Donc quelles sont, pour vous, les réactions, les bonnes réactions que l'on devrait avoir avant de mettre une personne à l'EHPAD, parce que sachez que mettre ma mère à l'EHPAD avec ma sœur et moi, c'était un drame épouvantable. On pleurait, on était catastrophés. On avait l'impression d'abandonner notre maman.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle nous a emmenés à l'école en nous tenant par la main, et nous, on la tient par la main pour l'emmener dans son dernier lieu de vie. Il ne faut pas l'oublier, même si elle est bien entourée, même si les gens qui font leur travail le font admirablement bien. J'avais honte d'emmener ma mère en la tenant par la main dans cet EHPAD. Comment faut-il faire?
Alors, je pense que la première chose, c'est effectivement la sécurité de la personne. Ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez mise en sécurité. Voilà.
C'est un geste d'amour que je
nous avons fait. Totalement, totalement. Lorsqu'une personne ne peut plus rester au domicile, c'est parce que justement la sécurité est mise en question. On peut rester à domicile longtemps, avec des prises en charge, que ce soit des infirmières, que ce soit des médecins, des kinés, des aides à domicile et auxiliaires de vie. On peut tout mettre en place, mais il y arrive un moment où la sécurité n'y est plus.
Oui, donc c'est un cas de non-assistance à personne en danger,
tout à
de
fait.
Ne pas réagir par rapport à cela.
Voilà, exactement, exactement. Donc aujourd'hui, effectivement, on fait tout pour qu'ils restent chez eux, parce que l'environnement où ils sont... Ils le connaissent, donc c'est moins traumatisant sur un Alzheimer de le laisser à domicile que de le mettre en EHPAD. Mais arrive un moment, on ne peut plus.
Bien sûr, l'évolution de la maladie est tellement différente d'un patient sur l'autre.
C'est ça.
On ne peut pas juger.
Donc, il ne faut pas faire de reproches aux familles qui décident de mettre leurs parents en EHPAD. Parce que s'ils le font, c'est qu'ils ont déjà tout tenté avant. Et c'est le seul moyen de pouvoir les aider.
Merci de votre témoignage, ma petite Corinne. On reviendra avec vous tout
c'est
à l'heure.
C'est avec plaisir.
Nous allons écouter un morceau de musique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des musiques un petit peu particulières. Le premier morceau sera un morceau de musique, je dirais, qui s'appelle Ameno, qui a eu un succès il y a une vingtaine d'années. J'aime beaucoup, c'est personnel, c'est sympa, c'est original, c'est médiéval. Allez, Ameno par le président de la radio, Francis Virpinte, dans son bocal, avec sa coupe de cheveux, on dirait Tintin.
L'antiremo dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno. Timere, timere, mantiro, mantiremo, ameno.
Toujours sur votre radio préférée 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers qui fête ses 40 ans cette année. Rendez-vous compte, 40 ans, c'est beau. Elles n'ont pas 40 ans, elles sont en face de moi. Elles ont des minois d'une fraîcheur exemplaire. Elles viennent de Mérignac, d'une résidence qui s'appelle Médicis. Maud et Sandra, bonjour à vous.
Bonjour Gérard.
Je voudrais vous poser quelques questions. Vous êtes bien jeune. Allez, on va dévoiler votre âge. Quel âge avez-vous, Maud ?
J'ai 32 ans.
Et Sandra ?
38.
38. Ne les faites pas, vous faites beaucoup plus. Alors, non, je plaisante, elles sont d'une fraîcheur exemplaire. Et vous travaillez donc dans une maison spécialisée, dans un EHPAD en fait, c'est comme ça que ça s'appelle.
Oui.
Vous êtes à l'EHPAD Médicis, qui est rue du Truc.
Oui,
c'est rue ça. Du Truc depuis,
172 alors, avenue du Truc, à Mérignac.
À Mérignac. Donc je voudrais saluer toute l'équipe qui travaille là-bas, que ce soit les cuisiniers, que ce soit les pâtissiers, que ce soit le personnel d'entretien, le personnel de ménage, que ce soit les assistantes, les médecins, bref, on salue toute l'équipe, la directrice. On salue tout le monde et puis surtout s'ils nous écoutent, on salue toutes les personnes qui ont la chance de pouvoir vivre en toute sécurité dans ce lieu magnifique. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Ça fait 12 ans.
Ça fait 12 ans, Sandra ?
6 ans que je suis à l'EHPAD.
6 ans. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole comme vous le voulez. Racontez-nous votre quotidien. Vous êtes une équipe, vous avez peut-être un message à faire passer.
Oui, on voulait vous remercier, vous et l'équipe, pour cet honneur que vous nous faites aujourd'hui de pouvoir mettre en avant notre métier, de pouvoir parler des personnes dont on s'occupe dans la maladie, de pouvoir être le porte-parole aujourd'hui. Je sais combien il y a de soignants qui aimeraient avoir ce privilège de pouvoir parler aujourd'hui de ce si beau métier qui malheureusement n'est pas assez reconnu.
Eh bien écoutez, je vais vous laisser parler, allez-y toutes les deux. La radio de l'Entre-deux-Mers est une radio qui laisse parler ses invités. Donc, je vous laisse parler. Allez-y, dites-nous tout ce que vous aimeriez nous dire.
Merci beaucoup. Alors, en fait, je suis aide-soignante en maison de retraite à Mérignac depuis 12 ans. Et face à la recrudescence des personnes vieillissantes et qui ont développé la maladie d'Alzheimer, l'État a mis en place un plan de santé publique pour pouvoir prendre en charge ces personnes qui ont des pertes de mémoire, en fait, et de pouvoir leur apporter un quotidien confortable, si je puis me permettre. Et sécurisé aussi. Oui, tout à fait. Donc, en 2014... Moi, personnellement, j'ai eu la chance de passer la formation d'assistante de soins en gérontologie. C'est une formation qui nous permet de travailler auprès des personnes démentes qui ont des troubles du comportement. Ils ont créé les médecins gériatres, l'ARS, docteur Antoun, qui est Maï Antoun, que je salue, qui est un très grand médecin gériatre. Qui nous a aidé à monter un PASA, c'est un pôle d'activité de soins adaptés au sein de la résidence Médicis. C'est un accueil de jour qui nous permet d'accueillir ces personnes qui ont des troubles du comportement, qui ont besoin d'être accompagnées
au
quotidien.
Uniquement le jour, elles repartent le soir chez eux.
Oui, parce qu'en fait, nous, on les accueille à un stade débutant de la maladie. Après, vous avez les unités protégées qui ont été créées. Là, elles sont davantage sécurisées. L'architecture n'est pas la même, parce que ces personnes-là, quand elles perdent la mémoire, elles commencent à déambuler. Donc, l'espace est aménagé
pour leur sécurité.
Pour leur sécurité. Et,
donc, ces personnes n'évoluent pas dans le même endroit, en fait.
Non. Oui. Non, on agit vraiment au stade débutant de la maladie, quand commencent les troubles de mémoire, quand ils commencent à ne plus savoir où ils sont, à ne plus reconnaître leurs proches, parce qu'on s'est rendu compte que c'est extrêmement anxiogène. On perd son identité, on oublie tout. L'idée, c'était de pouvoir accompagner un maximum ces personnes. Et de répondre à leurs besoins. En institution, ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on n'a pas assez de bras. Depuis la crise sanitaire, c'est encore pire.
Vous gérez combien de personnes à Mérignac ?
À Mérignac, il y a...
Dans son ensemble, entre ceux qui viennent le jour et ceux qui sont là toute la...
96 résidents.
Il y a 96 résidents et nous, au PASA, on est deux, donc on peut accueillir 14 personnes.
D'accord.
Souvent, on leur propose une activité le matin, le midi, on déjeune avec eux, et l'après-midi, de nouveau, une activité, et ils repartent le soir. Parce qu'il y a. En fait, c'est une maladie qui fatigue beaucoup.
Ils repartent comment chez eux ? En véhicule spécialisé ou...
Non, on n'est pas un accueil de jour. Comme on pourrait le dire, il y a des accueils de jour qui existent. Mais nous, c'est relié à l'EHPAD, donc ils ne sortent pas de l'enceinte de l'EHPAD. C'est juste le service. Le service
est adapté. Ils changent de service.
Tout à fait.
Donc 95 résidents. Est-ce qu'il y a un pourcentage de femmes et d'hommes? Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes,
oui.
Je pense.
Oui. Oui, oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui.
Concernées par ces maladies, en fait. Est-ce qu'il y a un pourcentage officiel, 80,
non.
90
non. Non. Non, en fait, on en connaît encore très peu, malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que les femmes vivent plus longtemps. C'est comme ça. Et du coup, on a plus de femmes qui sont avec nous.
Les femmes sont plus solides et plus résistantes.
Oui.
On peut le dire, je vois des sourires éclairés.
Non, c'est juste une question physiologique, malheureusement.
Bien sûr. Sandra ?
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec Maud. Elle a raison.
C'est mon binôme de toujours.
Quelque chose à dire de particulier, Sandra ?
De particulier, Maud a bien résumé. Hein. Nous, on est là pour essayer de les apaiser un maximum. Voilà, on veille à leur sécurité au quotidien. On essaye de leur apporter un réconfort. Voilà, c'est notre métier de tous les jours.
Est-ce que cela ne pose pas un problème sur le plan familial ? Parce que est-ce que c'est tout cet amour que vous apportez, sans vous en rendre compte, puisqu'il fait partie de votre quotidien, ne vient pas perturber, je dirais, l'amour que vous pourriez oublier de donner à vos proches, à vous ?
Non, ce sont vraiment deux choses différentes. Moi, j'apporte l'amour nécessaire à mes enfants. Je suis maman de 3 garçons. Donc, je leur apporte autant d'amour à mes enfants et mon conjoint que je peux en apporter après aux résidents. Non, on fait pas de. Enfin, moi, personnellement, je ne fais pas de différence. Ce métier, on le fait avec le cœur. Moi, j'aime
c'est
autant.
C'est un métier de cœur.
C'est ça, c'est un métier de cœur, de partage, d'échange, de patience aussi, parce qu'il faut énormément de patience, parce que c'est pas évident tous les jours.
Est-ce que quelque part, de voir ce que la vieillesse peut apporter, comme disait le général de Gaulle, ou Jacques Brel, avant de mourir, il avait dit « Mourir la belle affaire, mais vieillir au vieillir ». Il est mort à 49 ans. Mmh. Est-ce que ça ne fout pas un peu les jetons de savoir que ça pourra, un jour ou l'autre, être votre tour aussi ?
Mmh. Ah, ça nous ramène, oui. Oui, c'est sûr qu'on est face à la maladie tous les jours, ce n'est pas évident. Ça, c'est sûr. Après, on prend du recul. On prend du recul.
Bien sûr, parce que
c'est... On est obligé, pour exercer ce métier, d'avoir un certain recul.
Moi, j'aurais une question à vous poser.
Oui ?
Est-ce que vous avez assez de temps ?
Non. Le temps nous manque. Honnêtement, le temps nous manque. Ça, c'est sûr.
Vous avez un temps par patient ?
Oui. Nos collègues ont entre 10 et 12 personnes à s'occuper en soins tous les matins. Oui, forcément,
Vous êtes combien d'employés à l'EHPAD ?
De soignants, on est...
Pour la journée ?
Pour la journée ?
Oui.
On est 12, entre 10 et 12 soignants pour la journée.
Oui, c'est... Il en faudrait un peu plus, mais c'est difficile de trouver du monde et de recruter.
Il en faudrait un peu plus, ça c'est sûr.
Il en faudrait un peu plus, et surtout ces derniers temps, avec la crise sanitaire, il y a eu des moments où on était 5. On était 5 pour pratiquement 100 personnes.
Tous les métiers ont été touchés.
Tous les métiers ont été touchés.
On se demande où sont les gens qui travaillent.
Surtout que c'est vraiment un milieu où il faut connaître la personne, il faut avoir... cette connaissance de la personne, c'est le plus important.
Parce que vos comment vous les appelez, c'est pas des patients, c'est des
bénéficiaires. Pour nous, c'est des bénéficiaires pour les aides à domicile.
Vos bénéficiaires s'habituent à des personnes quand même quelque part, même s'ils perdent la mémoire, non ?
Oui.
Ils ont l'habitude de retrouver les mêmes personnes avec la même voix, le même physique.
Le visage est familier pour eux.
Voilà, donc quand ils vous voient, ils savent que quelque part, sans savoir s'il y a un lien de parenté ou pas, mais ils savent qu'ils font partie de...
C'est ça. On est un peu leur repère.
Oui. Puis il y a la blouse qui nous identifie. Aussi. Ils nous identifient beaucoup à la couleur des blouses. Et puis, c'est comme ça qu'ils nous sollicitent. Dès qu'ils nous voient, ils nous sollicitent. Une personne âgée, elle a toujours quelque chose à demander. Elle ne peut pas faire... Il y a plein de choses qu'elle ne peut plus faire. Et on est sans cesse sollicité pour les aider à faire. Et, aujourd'hui, on nous laisse malheureusement pas assez de bras, pas assez de personnel. Il n'y a pas assez de gens formés.
Alors, je précise que ça n'est pas lié à votre EHPAD, que c'est
un
manque général.
Oui, tout à fait.
Attention, ça n'a rien à voir avec l'EHPAD Médicis de Mérignac, qui fait tout pour que ses patients, ses bénéficiaires puissent bénéficier d'une attention sérieuse. Ça, vous le faites. Mais c'est vrai que ça manque de bras. Mais aujourd'hui, toutes les professions manquent de bras.
Moi, j'ai une question un peu délicate. Est-ce que c'est vous qui avez choisi de travailler en EHPAD ?
Oui, 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 tout à fait.
Voilà.
Et Sandra ?
Parce que ça aussi, c'est très important. Après, parce qu'il y a beaucoup qui refusent la gériatrie.
Malheureusement, oui, il y a une idée reçue sur la gériatrie. Beaucoup de gens se disent, je ne vais pas aller en gériatrie, je ne vais rien apprendre, je vais avoir une surcharge de travail et je vais être mal payée. Mais non, non. On est tous responsables, on a tous une part de responsabilité. Il faut que tout le monde se remette en question. Nos aînés ont besoin de nous. On ne peut pas se dire non, je ne vais pas travailler avec eux parce que ceci, parce que cela. C'est toutes les personnes que vous verrez en gérontologie, ce sont des gens passionnés et qui aiment leur métier.
Et même, qui aiment l'humain aussi.
C'est sûr, oui. Aiment l'humain, oui, tout à fait. Et en fait, on aimerait faire passer un message pour vous dire, les nouvelles générations, c'est important de respecter nos aînés, parce que demain, ce sera nous. Et on ne donne aucun espoir, en fait, aux générations qui arrivent, si on ne sait pas prendre soin, déjà, de ceux qui nous ont tout appris.
C'est un peu comme la retraite. On cotise pour ceux qui y sont. Mais quand vous y serez, est-ce qu'il y aura assez de cotisants pour vous ? C'est un peu le même système.
Tout à fait. Hein ? Ce qui est sûr, c'est qu'on travaille dans une EHPAD où tout le personnel est formidable. Ils ont une force incroyable en eux. Ils ne se plaignent pas. Ils sont toujours présents. Ils se soutiennent malgré les difficultés. On ne s'entend pas toujours. Il faut dire que l'équipe est... Il y a une grande équipe. Il y a beaucoup, beaucoup de corps différents, de corps de métiers différents.
Combien d'employés au total dans l'EHPAD ?
On est à peu près 50.
Oui, une cinquantaine.
Une cinquantaine, c'est-à-dire un demi-employé pour une personne, en fait.
Oui. Pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer et de toutes les pathologies apparentées, normalement, il faudrait être une personne pour une personne.
D'accord. Donc, ce qui prédomine, c'est la maladie d'Alzheimer en tant que patient.
Alors, il y a... Non, ce n'est pas ce qui prédomine. Il y a des personnes âgées qui ont des polypathologies et une partie d'entre eux ont développé des démences, soit la maladie d'Alzheimer ou des démences associées, si vous voulez. Il y a la maladie de Parkinson.
Oui, Parkinson.
Il y a des démences vasculaires. Et du coup, comme la population est très vieillissante, on vieillit de plus en plus longtemps, on va être confronté au quotidien à ces pathologies-là, à ces maladies, à ces personnes qui ont besoin de nous.
Et quelle est la moyenne d'âge à votre EHPAD de Médicis ?
La moyenne d'âge, c'est 80-90.
Oui, oui. Entre 80 et 90.
On a une résidente qui allait jusqu'à ses 110 ans.
Oui.
Il y en a une qui a 100 ans, là, puisqu'elle m'a dit l'autre jour qu'elle
était
née
en
1921. Puis avec un sourire, j'ai dit, 21, mais vous avez un siècle, madame. Vous avez 100 ans. Oui, j'ai 100 ans. Mais là, elle a encore toute sa tête.
Hein. Oui, oui, oui. Et oui, malheureusement, la maladie, elle peut nous toucher jeunes comme moins jeunes.
Bien sûr, on n'a pas la même carte d'identité génétique et du jour au lendemain, tout peut basculer. Ça, je l'ai bien compris.
C'est sûr.
J'ai bien compris. Les personnes jeunes qui attrapent la maladie d'Alzheimer, généralement, ne vivent pas vieux. Ils en meurent puisque c'est une maladie mortelle, contrairement à la maladie de Parkinson, qui, elle, est une maladie dégénératrice. Je sais de quoi je parle, puisque je suis atteint de cette pathologie. Je suis parkinsonien depuis 7-8 ans, mais j'ai réussi à passer un pacte avec Parkinson, cet Anglais qui est arrivé avec le Brexit et qui s'est autorisé de venir en moi. Donc je sais de quoi je parle, mais j'en parle avec beaucoup d'humour parce que je fais des progrès en anglais, parce que je roule toujours à droite, mais j'aimerais bien avoir une conduite à gauche. Je fais attention à moi, puis je vais pêcher dans la mer du Nord, sans autorisation. Alors là,
et ton cousin, c'est Boris.
Nous allons écouter un deuxième morceau de musique, et celui-là, Ennio Morricone, vous savez, l'Italien qui a fait toutes les musiques de films, et celle-ci, elle a marqué le monde, elle nous a marqué il y a quelques semaines, quand on a vu partir Jean-Paul Belmondo, puisque c'est la musique de son film Le Professionnel. Très belle musique d'Ennio Morricone. Écoutez-la religieusement et imaginez ce cercueil qui partait, et Popol, notre bébelle, dans cette caisse en bois. Voilà. Je ne veux pas plomber l'émission, mais c'est vrai qu'on parle de gériatrie, on parle du professionnel. Eh bien, écoutez, après la vie, il n'y a qu'une seule chose, la vie, et c'est sur la radio de l'Entre-deux-Mers, radio que vous aimez particulièrement, 98.4, et nous parlerons tout à l'heure, au retour, eh bien, d'un monsieur qui a une bonne bouille, une bouille de bouilleur de cru. Et oui, nous allons en parler, nous allons revenir sur le terroir bordelais avec Michel, qui va nous parler de ce qu'il fait, qui est tout à fait intéressant. Et nous reparlerons également quand même, encore en plus, des EHPAD et de l'ADMR. Je vous fais des bisous, le professionnel Ennio Morricone. Quelle belle musique, Bébel, tu brilles au firmament, tu as trouvé ton étoile flamboyante. La radio de l'Entre-deux-Mers 98.4, je suis avec, dans cette émission spéciale qui s'adressait aux personnes âgées, à nos aînés, et surtout, à toutes ces personnes qui travaillent et qui veillent sur nos aînés. C'est une émission dédiée spécialement à eux. J'ai Michel en face de moi, qui lui...
Bonjour Gérard.
qui lui donc est de Camarsac, en plein cœur de l'Entre-deux-Mers, sur la rive droite de Bordeaux, bien entendu, sur l'ancienne route de Bergerac, après Fargues-Saint-Hilaire, après tous ces petits villages, vous traversez Camarsac. Vous savez, c'est cette ville où il y a une grande descente, une grande montée. Là, on se croirait à San Francisco. Et à la sortie de la montée, lorsque vous allez sur Bergerac ou sur Branne, ou sur Cassillon-la-Bataille, sur votre droite, il y a le domaine, la distillerie L'Artigue. Et oui, on ne fait pas que du vin à Bordeaux. Il y a une appellation qui s'appelle la Fine de Bordeaux, qui est en IGP, Indication Géographique Protégée. Et Michel s'est lancé également dans l'élaboration. Le mot fabriqué n'est pas convenable. Ils distillent et ils élaborent des eaux de vie exceptionnelles, dont cette fameuse Fine de Bordeaux, mais surtout un gin. Et oui, un gin de taille 40 degrés. Michel, explique-nous un petit peu ta démarche et explique-nous les raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans cette distillation charentaise, je crois.
Oui, tout à fait. On est équipé avec un alambic charentais, c'est-à-dire qu'un alambic à double repasse. Alors effectivement, être distillateur, c'est un métier différent de vigneron, puisque bien sûr, je suis aussi vigneron. Mais être distillateur, c'est aussi travailler avec le terroir, avec la terre, avec cette même matière première qui est la vigne. Et pour nous, c'était assez évident, puis aussi passionnant de se dire qu'on pouvait faire autre chose que du vin. Et c'est pour ça qu'on est passé à la distillation, pour aller un peu au-delà. Donc effectivement, on fait notre propre vin. On fait des vins à côté, bien sûr, traditionnels.
Donc il y a des vins blancs secs, des rosés
Des rosés, des rouges, bien sûr, on a toute une palette de travail. Mais c'est vrai que c'est passionnant de faire du vin et ensuite de le transformer dans un autre produit. Donc on le distille et on fait un brandy qui s'appelle ici la Fine Bordeaux.
Alors, je précise que l'appellation brandy est une appellation mondiale, c'est-à-dire que lorsque vous avez des appellations d'origine protégée comme Cognac et Armagnac, vous pouvez faire des eaux de vie à base de vin, mais ils ne pourront pas s'appeler Cognac ou Armagnac si vous n'êtes pas dans l'appellation. Donc brandy, B-R-A-N-D-Y, peut être élaboré dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on peut faire du brandy en Angleterre, en Amérique et ainsi de suite.
Tout à fait. Le brandy, la définition du brandy, c'est une distillation de vin. Donc effectivement, la fine est un brandy, le cognac est un brandy, l'armagnac est un brandy. Mais la fine Bordeaux, la particularité, c'est que c'est un peu au sud du cognac et au nord de l'armagnac. En fait, la géographie fait qu'on est entre les deux, mais aussi au niveau de la dégustation, on est vraiment aussi entre les deux. C'est un produit un peu atypique qui n'est pas vraiment connu et qu'il faut absolument découvrir. Alors bien sûr, c'est fait un peu comme du cognac, c'est distillé comme du cognac. On le fait vieillir au moins 3 ans de barrique pour avoir quand même...
Dans des barriques particulières, Michel ?
Alors notre particularité, c'est que on a une deuxième exploitation à Saint-Émilion. Et donc nous achetons chaque année des barriques neuves pour notre vin de Saint-Émilion. Et quand les barriques sont usées, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, eh bien on les récupère et on passe la fine Bordeaux dans ces barriques-là.
D'accord.
Il faut savoir que en matière de spiritueux, une barrique a une vie infinie. Elle peut durer 80 ans jusqu'à ce qu'elle ne fuit pas, quoi. Tant qu'elle ne
Bien
fuit
sûr.
Pas, elle peut vivre.
Alors l'important, j'aimerais le souligner, Michel, c'est que les tanins du bois ont été pompés par le vin et on n'en a pas besoin pour l'alcool.
Il reste toujours beaucoup, dans une barrique, il reste toujours des tanins de bois. Et c'est vrai que certaines barriques donnent plus ou moins selon l'état de la barrique.
Et selon la cuisson de la barrique elle-même.
Tout à fait. Mais même une vieille barrique saura apporter
ce qu'il faut.
Et il faut bien comprendre aussi qu'un vieillissement de fine Bordeaux est aussi limité, c'est-à-dire que ça peut rester 20 ans dans une même barrique et donc à ce moment-là, la barrique a beaucoup de choses.
Il suffit de houiller de temps en temps quand même.
On rentre dans des détails techniques si vous voulez, mais autant dans le vin, il est nécessaire de houiller régulièrement, au moins une à deux fois par semaine. pour maintenir...
Le houillage consiste à faire le niveau dans la barrique par l'évaporation et la consommation du bois.
Tout à fait, c'est la part des anges.
Exactement.
Et donc si le vin prend l'air, bien sûr, le vin va s'abîmer. Ce qui n'est pas du tout vrai dans le domaine du spiritueux, puisque nos spiritueux sont conservés aux alentours de 60-65 degrés dans les barriques. Et donc la part des anges, celle qui s'en va, on ne la remplace pas. Le vide, le spiritueux peut rester tout à fait au contact de l'air. Et on peut avoir des barriques qui ont 10 ans, 15 ans et qui sont à moitié vide ou à moitié pleine, selon comme on veut, mais ce qui permet d'avoir des... Une
concentration d'arômes et de textures différentes.
Tout à fait, et puis surtout une certaine unicité avec ce qu'on peut appeler des single barrel, par exemple. On peut avoir des choses très, très, très intéressantes.
D'accord. Donc, pour avoir l'appellation fine de Bordeaux en indication géographique protégée, il faut avoir combien d'années de vieillissement ?
La fine Bordeaux a la caractéristique... Enfin, l'aspect juridique n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il faut au moins 3 ans de barrique pour avoir une polymérisation des tanins d'alcool, des tanins de bois avec les molécules d'alcool. C'est-à-dire que la molécule va se rallonger et donner un goût de bois et de longueur dans le palais. L'aspect juridique n'est pas
D'accord.
vraiment important.
Donc vous avez des vieillissements différents, je crois. C'est mentionné sur l'étiquette, peut-être, non ?
Oui, tout à fait. Nous, pour le moment, on est sur sur des barriques qui sont... Enfin, on présente des produits qui ont un vieillissement de l'ordre de 3 ans. On pense pouvoir sortir de l'année prochaine du Napoléon, une qualité Napoléon, c'est-à-dire avec un compte 5, 6, 7. Et pour avoir quelque chose de plus fin. Le XO attendra encore quelques
années. XO, c'est combien d'années ?
Le XO, c'est au minimum 10 ans. Mais au-delà, là aussi, l'aspect juridique est important, mais c'est aussi une bouche qui est différente. Le Napoléon va être différent du XO. C'est une approche gustative différente.
D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une perte en degré d'alcool ? Pendant 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas une évaporation de...
Oh, la part des anges peut faire beaucoup de choses. Elle fait perdre de l'alcool. Elle peut faire... Le produit évolue. C'est un produit qui est extrêmement vivant. Et c'est intéressant de goûter régulièrement les mêmes barriques et de voir leur évolution. Mais c'est un produit magique. Oui, on peut perdre plein de choses, mais on peut en gagner aussi plein. Donc c'est très intéressant.
Les bouteilles sont vendues quel prix à la propriété au prix public TTC ?
Alors, prix public 33 euros à la propriété, à la cave Lartigue.
Le gin également ?
Le gin également, oui.
Au même tarif ?
Oui.
Est-ce que c'est trahir un secret que de demander avec quelle plante faites-vous votre gin ?
Alors, pour nous, ce qui est important dans notre philosophie de vigneron, c'est d'avoir des produits de terroir. C'est ça qui est important pour nous. Nos vins sont des vins de terroir et nos spiritueux sont des spiritueux de terroir. La fine, c'est une IGP, c'est un produit local. Et notre gin aussi, c'est un produit local avec des produits locaux. On est en Gironde, on est plusieurs distilleries à faire un certain nombre de produits comme le whisky et le gin. Mais nous, on est la seule distillerie de vignerons. Et on tient absolument à retrouver ce terroir dans tous nos produits. Le gin, il est principalement fait avec de l'immortel. L'immortel, c'est une plante médicinale qui pousse le long de l'Atlantique, sur nos côtes. C'est pour ça qu'on a choisi cette recette-là. Bien sûr, il y a d'autres plantes, mais la dominante, c'est l'immortel. Et pour nous, dans tous les produits que l'on fait, on doit exprimer notre terroir.
Notre terroir est la région. Puisque l'immortel, vous le dites, donc sur le côté
Atlantique.
Et vous allez le cueillir vous-même ou vous...
Avec mes petites mains.
Avec ses petites mains, donc c'est absolument passionnant ça. Quelle est la production, alors c'est pas un contrôle fiscal, hein. Quelle est la production de fines de Bordeaux et de gin actuellement au domaine Lartigue ?
C'est pas un contrôle fiscal ni un contrôle douanier, mais nous produisons environ 5000 bouteilles par an, quoi. Tout confondu.
Qui sont écoulées auprès de professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, des boutiques, des particuliers.
Nous travaillons beaucoup avec les particuliers. Avec un certain nombre de professionnels aussi.
De l'hôtellerie, de la restauration,
oui,
des boutiques.
Tout à fait.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Ben, merci.
Alors, est-ce que vous pourriez donner l'adresse exacte de la propriété, le nom de la rue, de l'avenue, du boulevard ?
Toutes les informations sont sur le site cavelartigue.fr.
Donc, vous allez sur le site cavelartigue.fr. Nous sommes à 15 jours, deux semaines pile poil des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Pensez à un gin, pensez à une fine de Bordeaux. La fine de Bordeaux, alors je vous donne quelques exemples de consommation, bien entendu, chambrée à la fin d'un repas, dans le creux de la main, comme ferait John, comme ferait Watson et Sherlock Holmes. Mais également en surfeur. Le surfeur, donc, c'est de prendre la 3 ans d'âge, la plus jeune. Vous prenez un verre de bonne limonade artisanale ou de Schweppes. J'ai cité une marque Schweppes, dont on peut citer une boisson amère, une autre marque que Schweppes. Il existe plusieurs marques. Et vous versez un petit peu de fine de Bordeaux dessus sans mélanger. Vous touillez juste un petit peu avec une paille. N'en mettez pas trop. Bien entendu, nous parlons d'alcool et la radio de l'Entre-deux-Mers s'associe à une consommation raisonnée et raisonnable, tout ce qui touche le monde de l'alcool et du vin. Je précise que le vin n'est pas de l'alcool. Le vin contient de l'alcool par distillation. La distillation, c'est une distillation de vin ou d'un fruit ou d'un légume pour obtenir de l'alcool. Il y en a marre de voir les publicités qui montrent toujours une couleur rouge lorsque l'on parle d'alcool. Et quand on voit à la télévision des publicités qui vous disent « un verre d'alcool par jour », un verre d'alcool, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire du tout. Il faut donner un volume. Sachez que 37 centilitres 5 de vin à 12 degrés et demi au cours d'un repas avec une entrée, un plat, légumes, fromage et dessert vous emmène à 0,5 g. Voilà. C'est comme quand on dit 5 fruits, 5 légumes. Le public ne comprend pas ce que cela veut dire. 5 fruits, 5 légumes, c'est 5 fois 90 grammes de fruits et de légumes sous toutes ses formes, à savoir 450 grammes par jour au quotidien, du petit déjeuner au dîner avant d'aller se coucher. Donc, le domaine Lartigue, à Camarsac, dans l'Entre-deux-Mers, vous demandez Michel ou son épouse, qui est ?
Laurence.
Laurence. Laurence et Michel ont élaboré pour vous, des jeans, un jean français remarquable, une idée cadeau.
Je tiens à préciser, des jeans non troués.
Ça y est, Francis a fait sa petite plaisanterie. Oui, ce n'est pas du jean taille 42 ou taille 38, c'est vraiment du jean à consommer vraiment religieusement. Ce jean est quelque chose d'exceptionnel et cette fine de Bordeaux que j'ai dégustée, nous l'avons présentée la semaine dernière, tous les deux ensemble, à l'hôtel Intercontinental de Paris, un des plus grands palaces de France. Et je peux vous assurer qu'il a fait sensation. Et que je souhaite de tout cœur que très prochainement sur la carte de cet établissement, c'est ce qui est prévu, soit figure en pleine liste, eh bien, le jean nouveau et non pas le vieux jean. Le vieux jean, c'est Francis.
Ah, que coucou.
Que coucou. Voilà, donc Jean et Fine de Bordeaux, domaine de Lartigue à Camarsac. On va donner un téléphone quand même.
Tout est sur le site cavelartigue.fr.
Tout est sur le site cavelartigue.fr. Il a une tête absolument géniale. Il a vraiment une tête de bouilleur de cru. Et vous allez l'adorer comme moi je l'aime. C'est un couple absolument délicieux. Et ils ne fabriquent pas, ils élaborent. Je reviens avec... merci Michel d'avoir accepté de nous rejoindre. Merci d'être venu parler de votre produit. À quelques heures de Noël, pensez à vos cadeaux de fin d'année. Je pense même aux entreprises qui veulent offrir un produit original, bien pensé, bien présenté. La présentation joue un rôle important. De très belles bouteilles, de jolis flacons de 70 centilitres et 33 euros TTC prix public. Donc pour les entreprises, ça fait 20 points de moins pour la TVA, ça fait 6 euros de moins en gros pour une bouteille, ça fait 27 euros hors taxe. Ne vous gênez pas à ce prix-là, vous ne trouverez pas sur le marché des boissons gin et fines de Bordeaux qui font partie du terroir de l'Entre-deux-Mers. Et oui, et oui, et oui, nous revenons avec Médicis et nous revenons avec Maud et Sandra. J'aimerais que vous nous donniez un petit message avant ces fêtes de Noël.
petit message, prenez soin de vous.
Prenons
soin de nos proches, de nos anciens.
Voilà, prenez soin de nos anciens et vous êtes là pour ça.
Voilà.
Et je le répète, la radio de l'Entre-deux-Mers se fait fierté aujourd'hui de vous mettre en lumière, de vous mettre en valeur, de saluer toute l'équipe de l'EHPAD Médicis rue du Truc à Mérignac, à côté de Codéran, pas bien loin de la Rocade, parce que les personnes qui sont en villégiature dans ce lieu sont vraiment traitées de façon merveilleuse. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que j'y vais tous les mois. Maintenant, depuis 2 mois, je vais attaquer la 3e prestation. On a décidé, enfin cet EHPAD a décidé de donner des cours de pâtisserie et de cuisine, des ateliers où les personnes âgées participent à ces ateliers. Le matin, on prépare un dessert et l'après-midi, on prépare un plat salé qui sera commun, bien entendu, à tous les résidents le soir et un 4 heures gourmand. Et le 14, oui, nous allons réaliser un souvarov. Un souvarov, c'est un vieux gâteau sablé avec de la confiture. Et puis, nous allons réaliser un saucisson en brioche.
Tout à fait.
Des plats régionaux. On a eu fait de la rabote picarde. C'est-à-dire qu'on les fait voyager, ces papis, ces mamies. C'est méritant, non, c'est... Mais non, comment vous les appelez ?
Des bénéficiaires.
Oh, méritant. C'est bénéficiaire. C'est bénéficiaire. C'est marrant, je ne trouve pas ce mot. C'est bénéficiaire. Je suis avec Corinne également, qui est ADMR à l'Aréole. Elle a 18 ans de métier. Maude, un mot pour terminer.
Un grand merci à ma direction, notre directrice Madame Kuhn,
qui nous a
fait confiance, l'équipe qui nous a fait confiance pour qu'on exprime aujourd'hui leur métier.
Que vous les représentiez.
Oui. Qu'on les représente.
Eh bien, vous êtes des dignes représentantes, on vous en remercie.
Merci.
Et que Véronique Kuhn soit remerciée ici de sa disponibilité, de sa gentillesse et de sa compréhension, de son talent et de ses compétences.
Oui.
On va terminer avec Corinne. Corinne, qu'auriez-vous comme message à passer en tant qu'ADMR à l'Aréole ?
Alors, je voudrais surtout dire aux familles, pensez à vos anciens. Ces fêtes sont là, elles sont importantes pour eux. Certes, nous, on les suit au quotidien, mais moralement, ces fêtes, plus le Covid, ça risque d'être très difficile pour eux. Donc, pensez même 5 minutes à passer voir vos anciens.
Une émission dédiée à tout le personnel, non, j'aime pas le mot, à tous les collaborateurs et les collaboratrices des EHPAD. Et je voudrais remercier ces hommes et ces femmes qui se dévouent pour nous. Certes, il y a un salaire à la fin du mois, mais ô combien mérité. Et pensez à eux. N'hésitez pas, pendant les fêtes de fin d'année, à leur apporter un cadeau qui viendra du cœur. Rien, pas grand-chose, mais un cadeau. C'est le geste qui compte. Pensez que ces hommes et ces femmes, avec une majorité de femmes, eh bien, passent leur temps à s'occuper et à faire le travail que nous devrions faire chez nous à la maison ou à la maison de nos ancêtres, de nos anciens. Eh bien, merci à eux, merci à ces filles, merci à ces jeunes femmes, 33 ans, 38 ans, 40 ans. Elles sont là, dévouées chaque jour à faire des kilomètres par la pluie, par le vent, par le froid, par le chaud, pour aller vérifier que dans une maison au fin fond de la campagne, dans la ruralité, eh bien, tout se passe bien. Ça, c'est le travail de l'ADMR et de Corinne Vieillefond. Merci à vous toutes, mes filles. Merci à vous
tous.
Merci
à vous de nous
mes
avoir
amours,
reçu.
Vraiment. La radio de l'Entre-deux-Mers est d'une fierté sans... Bon,
je peux rajouter quelque chose ?
Oui, Francis.
Merci à toi, Gérard.
Oui.
Parce que c'est toi, quand même. Merci.
Mais non, moi, c'est pas merci. C'est naturel. Je voudrais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.
Bonnes fêtes à toi aussi, Gérard.
Je voudrais vous remercier d'être fidèle à cette radio 98.4. Et le mot de la fin sera Michel. Quel conseil nous donnez-vous pour apprécier votre fine de Bordeaux et votre gin ?
Profitons de la vie, buvons et festoyons.
Et voilà, carpe diem, comme dirait tout le monde. Merci Francis, le président de cette radio associative qui existe depuis 40 ans. Et c'est un vrai bonheur de non pas de travailler, mais de collaborer avec vous. Merci à vous toutes, à vous tous. Bonne journée, bon week-end. Vous savez que vous allez pouvoir réécouter cette émission et l'enregistrer en podcast. Il est 98.4, c'est la radio de l'Entre-deux-Mers. Nous sommes à Sauveterre-de-Guyenne. On vous fait des bisous, on vous fait des câlins et on vous aime. Et ne changez pas de fréquence. Allez, bye bye.
Dum, dum, dum.